Radio Okapi. Grande interview.
La ville de Kinshasa a connu 5 attaques en moins de 3 mois. La dernière remonte au lundi 7 août 2017 et a causé la mort de 19 personnes. À côté de cela, il faut ajouter les multiples évasions enregistrées à travers les différentes provinces de la RDC. Grande interview aborde toutes ces questions avec le professeur Boniface Kabissa. Il est criminologue de son état. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Bonjour, professeur Boniface Kabissa.
Bonjour.
Comment allez-vous, professeur?
Je vais bien, merci, grâce à Dieu.
Merci beaucoup. Vous le savez, le mercredi 9 août 2017, la police nationale congolaise a présenté au vice-premier ministre en charge de l'intérieur, défense et sécurité une trentaine de personnes identifiées comme des adeptes de Bundu Dia Congo. Selon la PNC, elles sont à l'origine des affrontements avec les forces de l'ordre lundi 7 août dernier dans la capitale et dans le Congo central. La même source ajoute que les 31 personnes, dont 3 femmes, ont été interpellées à Kinshasa, Matadi et Boma. Daniel Tambizoni nous en donne plus de détails.
Le porte-parole de la police nationale a d'abord donné le bilan humain de ces affrontements à Kinshasa et Congo central.
Dans l'ensemble, pour la ville, province de Kinshasa et la province du Congo central, il a été enregistré les bilans provisoires de 19 tués, 7 blessés et 31 interpellés que voici qui, après interrogatoire, ont reconnu sur procès-verbal avoir effectivement participé à ces mouvements insurrectionnels.
Parmi les tués, 2 officiers de la police nationale, 1 major et 1 capitaine. 12 assaillants tués à Kinshasa, 2 à Matadi et 3 à Moanda. Selon la police, c'était sous le coup des 9h du lundi que, de manière synchronisée, ces troupes BDK voulaient s'attaquer aux signes du pouvoir dans la capitale.
Après les éléments préliminaires des enquêtes, il ressort que pour la ville de Kinshasa, les assaillants progressaient sur 3 axes. Premier axe, les assaillants interpellés au niveau de l'UPN avaient pour objectif de prendre le contrôle du centre d'émission de Mbinza Pigeon. Deuxième axe, les assaillants interpellés au niveau de Selembao et Bumbu avaient pour objectif d'investir les sièges de la radio-télévision nationale congolaise dans le but de faire une déclaration de prise de pouvoir. Troisième axe, les assaillants interpellés au niveau de Sainte-Thérèse, Angilia Kimbaseke, avaient pour objectif d'investir l'aéroport international d'Engil.
La police nationale a promis de déférer ses assaillants devant les juridictions compétentes après la clôture de leurs auditions.
Merci Daniel Tambinzoni. Professeur Boniface Kabissa Moussambi, vous êtes criminologue. Quelle analyse faites-vous de ces différentes attaques enregistrées dans la ville de Kinshasa? 5 en près de 3 mois, c'est quand même beaucoup.
Il faut commencer par le commencement. Au fait que l'être humain n'était pas fait pour vivre dans un état. L'être humain n'est pas créé pour être dirigé par un autre être humain. Le départ doit être celui-là. Et lorsqu'on s'écarte de cette philosophie, on a des problèmes. Des problèmes de circonscrire le comportement des gens que nous appelons antisociaux ou criminels carrément. Très souvent, on est étonné de voir que chaque fois, un groupe de gens reviennent sur... Je parle de la science, hein, c'est-à-dire pas seulement des Congolais, mais l'être humain en général.
Sur les plans des principes.
Exact. Les gens ont tendance à s'étonner de voir que l'homme cherche à briser l'organisation, le fonctionnement de la société établie. Ils ignorent que l'homme au départ est né libre, que l'état actuel, c'est-à-dire que les structures actuelles lui ont été imposées. C'est comme un animal de la forêt que vous allez garder la corde au cou au village, le jour que vous coupez la corde, eh ben, il va regagner la forêt, quelle que soit la nourriture que vous lui donnez. Et donc, c'est la même chose avec l'être humain. À partir de cette considération, votre regard sur le délinquant change. C'est-à-dire que celui qui délinque fait la marche normale. C'est la démarche normale d'un animal qui veut rentrer à son pristine état. Tandis que les gens qui se comportent correctement, ce sont ceux-là qui peuvent nous étonner. Alors, très souvent, on se fâche, on exploite les moyens qui sont au-delà de la vengeance pour quelqu'un qui a violé les principes de la société. Chez nous, au Congo, c'est un peu difficile. La défaillance de la justice, ce n'est plus un secret d'ailleurs. Il y a un étranger un jour qui m'a demandé que s'il nous arrive de nous réunir pour nous entendre, de tout foutre en l'air. La justice n'existe plus. La justice n'est pas celle que vous voyez, mais celle que les gens ressentent. C'est différent. Ce qui fait que lorsque la justice devient inexistante, l'homme a tendance à rentrer dans l'état où je viens vous dire qu'on appelle en droit l'état primitif.
Alors, professeur, la justice n'existe pas. Est-ce que l'État congolais existe? Kinshasa, c'est quand même la capitale qui est attaquée plus de 5 fois. Plusieurs observateurs et analystes ont parlé de la défaillance des services de l'État. D'autres, comme des membres de l'opposition, ont parlé de mascarade, de montage. Est-ce que l'État congolais existe, professeur?
Vous savez, il y a une différence entre la force, l'autorité et les pouvoirs. Très souvent, les gens confondent ça. La force, posséder la force. Là, je suis en train de vous parler de mon mémoire de licence intitulé « La délinquance d'État », grille de lecture à propos du Zaïre. Nous sommes en 92. Eh bien, lorsque vous avez la force, ne dites pas que vous avez le pouvoir. Le pouvoir, la force, relève du physique. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons le bonhomme qu'on appelle le fonctionnaire, la justice, et tous ces gens, ils existent. Mais ça, c'est la force. Le pouvoir, par contre, c'est lui qui forme l'État. Et le pouvoir, c'est d'ordre spirituel, c'est d'ordre psychologique. Vous entendez les gens chez les Européens parler de la cote de popularité. C'est ça le pouvoir, la cote de popularité. D'un ministre, d'un chef de l'État, d'un député, de tous ces gens-là. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir ne se voit pas. Le pouvoir se sent. Tandis que la force se voit. Alors, il vaut mieux pour une entité qu'on appelle l'État avoir les deux, c'est-à-dire et la force et les pouvoirs.
Et dans le cas d'espèce, professeur, la RDC, l'État congolais, a-t-il la force et le pouvoir par rapport à toutes ces attaques qu'on observe, des évasions spectaculaires à travers des prisons dans la République?
Non, le criminologue, c'est pas quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui décrit, qui vous donne les éléments à vous maintenant de savoir est-ce que le Congo est encore un État. C'est un pays, certes, mais est-ce que c'est un État? Deuxième chose, je voulais terminer par le raisonnement que je fais sur ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la force. L'autorité, c'est la capacité de savoir. C'est-à-dire, moi, je peux, à mon petit niveau, dire que je suis une autorité en matière de criminologie. J'ai l'autorité d'expliquer les choses de ces domaines. Donc, l'autorité, c'est dans les domaines du savoir. Alors, dans l'abus de vocabulaire, nous avons l'habitude de pêle-mêler ces choses-là. Je m'arrête là pour dire que les évasions, dans un État où les gens ont l'impression que la justice n'existe pas, le fait de les arrêter devient une injustice. Parce que dans la culpabilité de l'individu, il y a la notion de comparaison. Il se dit, par exemple, j'ai quelqu'un de la famille qui, enfin, de la famille de quelqu'un que je connais, qui est en prison parce que il a volé $200. $200. Je crois que vous et moi, on a lu, même si je travaille avec lui, mais je l'ai dit parce que je l'ai vu dans les journaux, les millions et les millions que des gens volent et qui sont impunis. Alors, la personne qui, normalement, elle doit être arrêtée. mais qui se retrouve en prison pour 200 dollars et qui voit que les gens qui ont volé des millions ne les rejoignent pas, cette personne se considère comme victime. Alors qu'en réalité, il est auteur, mais il se considère comme victime de l'organisation de la société. Bref, le fait de pratiquer une injustice sur l'échelle restreinte ou globale, vous créez vous-même un mécanisme de retour à la réaction sociale. Et c'est cette réaction-là que, lorsque nous le voyons sous nos yeux, nous avons l'air de nous étonner, l'air de crier sur les sorciers, sur les... Non, non. Il s'agit tout simplement du retour de nos actions. Ce n'est que le début. Un être humain, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup de pression. Mais il faut savoir la limite. Lorsque vous ne connaissez pas la limite, eh bien ça s'éclate.
Radio Okapi. Grande interview.
Professeur, vous avez suivi le porte-parole de la police qui indique que lorsqu'il y a eu ces mouvements, c'était simultané à Kinshasa et dans le Congo central. Il indique que ces groupes de personnes divisées en trois à Kinshasa, qui est le groupe qui était vers Bumbu, devait faire une déclaration au niveau de la chaîne nationale à RTNC. Un autre groupe devait prendre l'aéroport. Un autre groupe devait prendre un autre lieu stratégique. Professeur, des gens armés de bâtons et de quelques noix de palme peuvent-ils prendre les lieux symboliques de l'État?
Vous voyez ce que je vous ai dit là au début, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question sur la différence entre la force et le pouvoir. Lorsque vous avez le pouvoir, vous ne pouvez pas avoir peur, comme vous dites là, des gens qui viennent avec des bâtons. Mais si vous n'avez pas le pouvoir, c'est vrai, vous aurez peur. Parce que le pouvoir, comme je vous l'ai dit, c'est sang. C'est ma mère qui m'a dit ça, elle n'était pas criminologue comme moi. Elle m'a dit, ne surveille pas ta femme, aime-la, n'est-ce pas? Vous l'aimez, ça suffit. C'est ça, le pouvoir. Moi, je reviens sur l'histoire de la police nationale qui a décrit, ce sont eux qui ont les éléments que je n'ai pas. Mais là où ça frise mon intelligence scientifique, c'est le fait que la distinction entre l'administration et la justice disparaît de plus en plus dans notre pays. Lorsque vous arrêtez les gens qui sont suspects et lorsque vous les exhibez au public, quel est le statut que vous donnez maintenant à ces gens-là?
Qui sont présumés innocents.
Voilà. Et vous leur donnez quel statut maintenant? Est-ce que vous les appelez encore suspects ou coupables ou témoins? Je ne sais pas. Je vous dis que les criminologues ne tranchent pas. Les criminologues ressort les éléments que vous-même vous avez vomis. Il vous montre. Et parfois, vous n'allez pas avoir envie de regarder. Et donc, moi, là, ça blesse mon intelligence juridique. Ici, lorsque nous pourchassons des gens qui troublent l'ordre public, nous devons les pourchasser conformément aux principes généraux de droit. Sinon, nous serons comme eux. Qu'est-ce que nous leur reprochons? De venir troubler l'ordre public. Et pourquoi nous heurtons la conscience des autres en faisant la même chose qu'eux? C'est comme ça que l'État, c'est comme ce papa-là qui prend un bébé qui va chier dans son pantalon. Alors, qu'est-ce que le papa va faire? Il va chier aussi dans le pantalon du bébé, non? Et si vous ne voulez pas faire ça, mais n'assumez pas la fonction publique.
Professeur, ces assaillants s'en prennent aux symboles de l'État, tuent des policiers, des administrateurs. Quel regard, vous, de criminologue, vous avez par rapport à cet état de choses?
D'abord, ici, je présente les condoléances et les respects auprès des familles éprouvées. Mais je vais vous dire ce que je venais de vous dire, que l'homme n'est pas né pour vivre avec l'homme. L'homme est né pour être seul. Il y a un auteur, c'est Thomas Hobbes, qui a parlé de homo homini lupus. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Donc, lorsque nous vivons ensemble, c'est vraiment une volonté qu'il faut confirmer dans notre comportement. Alors, l'État, c'est un monstre qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, mais qu'on veut avoir. Personne n'aime l'État. Personne. Y compris nous qui sommes dans les bureaux, qui volons l'argent qui appartient à l'État. Nous ne l'aimons pas. Nous sommes aussi criminels que ces gens-là. C'est la même chose. Mais le problème, c'est que eux, nous le voyons parce que c'est physique. Mais lorsque vous seul, vous volez à vous tout seul, 1 million, 2 millions, vous pensez que vous êtes plus humain que ces gens-là. C'est la même chose.
Et donc, professeur, ces gens-là ne font que répondre, comme vous l'avez dit, répondre à une certaine attitude adoptée par le gouvernement, l'État congolais.
Ces gens-là sont les résultats des réactions comportementales de l'État. Hein? C'est une réaction. Donc, attention, n'allez pas dire que je dis que c'est bon ce qu'ils font. Non, non.
Loin de là.
Je dis que pour endiguer ces problèmes-là, nous devons commencer à la source, c'est-à-dire changer notre comportement de l'État, nous qui représentons l'État, moi y compris, nous changeons notre comportement et nous allons voir quels sont les gens qui vont rester en marge de ce comportement-là. Mais lorsque nous ne changeons pas, nous voyons dans les journaux des gens qui volent des millions, les gens qui ont pris des maisons de l'État, mais les gens qui n'ont plus de l'État à leur portée, ils vont s'attaquer au symbole. Il y a un travail que j'ai fait, j'ai fait la publicité ici, quand j'ai expliqué le pillage en République démocratique du Congo en 92. C'est ça. Alors, je termine, et c'est très important ce que je veux dire tantôt. Depuis le départ des colons jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien changé, vous savez. Rien. Nous continuons à faire comme si l'État était à part, la population de l'autre côté.
Il y a un fossé entre les deux.
Il n'y a rien. Nos propres pays africains qui commencent à s'organiser autrement, je vous parle de certains pays voisins, vous verrez que le regard à la police et à l'armée est différent que le regard qu'on a chez nous ici de la police et de l'armée.
La mesure de restriction de diffusion des images sur les réseaux sociaux sera levée dans quelques jours, annonce le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Dans une interview accordée la semaine dernière à Radio Okapi, Emery Okundji a indiqué que la mesure de la limitation d'accès aux réseaux sociaux a été prise pour des raisons de sûreté publique. On l'écoute au téléphone d'Étienne Kalema.
En raison du fait que beaucoup d'images altérant la vérité circule sur les réseaux sociaux et incite même à la violence. Ainsi que pour des raisons de sûreté publique, l'autorité de régulation a instruit les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'Internet de réduire la transmission des images et vidéos. Je souligne le mot « réduire ». Aucune mesure de coupure d'Internet n'est prise. C'est la désinformation, c'est la désintoxication. Cette mesure est prise dans le but de préserver l'ordre public. Cette mesure n'est que provisoire et est justifiée par les circonstances du moment.
Professeur, ces genres de mesures sont-elles suffisamment efficaces pour aider à décanter la situation actuelle que connaît la RDC?
Je voudrais vous dire l'histoire du papa avec son bébé. Très souvent, c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous ignorons que lorsque nous venons à la fonction publique, nous venons pour être des serviteurs et non des commandeurs. C'est le peuple qui commande. On devait venir pour exécuter la volonté de ces gens-là. Eh bien, lorsque nous commettons les mêmes actes délinquants, sous prétexte que nous poursuivons les délinquants, eh bien, comme disait Mobutu, il nous renvoie kif-kif. vous allez au même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que vous êtes l'État. Vous voyez, il faut regarder chez les autres. Parce que l'homme ne se développe pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui a dit, je crois Saint-Exupéry, qui a dit, le voyage instruit. Il faut regarder les autres. Alors, lorsque vous commettez des actes délinquants, sous prétexte que vous pourchassez les délinquants, je ne sais pas si vous n'aurez pas la contre-production de ces actes-là. Et puis ensuite, n'y a pas que des gens des réseaux sociaux qui ont été pénalisés. Tous les services, moi, c'est maintenant que je sais que c'était volontaire et m'a fait, on voulait m'envoyer un bulletin de l'enfant, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. N'est-ce pas?
Dommages collatéraux.
Voilà. Et je crains que je ne sois pas le seul. Je crains que je ne sois pas la seule victime. Moi, j'ai des petits-enfants. Je fais les devoirs par vidéo interposée. Et nous sommes très nombreux. Je donne cours par vidéo interposée. N'est-ce pas? Et nous sommes très nombreux de voir que ça n'a pas marché. Le manque à gagner, personne ne le sait. Je ne m'en prends pas au ministre qui est mon jeune frère. Mais je pense très sincèrement que chaque fois que nous décidons, nous devons décider sans émotion. Nous devons décider par rapport à l'intérêt de l'État. Et l'État, c'est la population. Nous, nous sommes le régime. Le régime change, mais l'État ne change pas. L'État, c'est la population, c'est la police, c'est l'armée, c'est la justice. Ça, ça ne change pas. Et très souvent, comme je vous ai dit, il y a confusion dans nos comportements. Nous sommes un régime, nous venons... Le régime, c'est une couleur. Nous venons avec notre couleur. C'est comme ça qu'il y a des opposants qui, eux aussi, ont une autre couleur. Et on se bat pour que nous, on se maintienne, eux et se battent pour venir nous remplacer. Mais nous ne pouvons pas prendre l'État comme le nôtre.
Non. En otage.
Non, l'État appartient à nous tous. On n'a jamais fait... J'entends ici les ministres des réformes. Les réformes au Congo, au Zaïre à l'époque et au Congo aujourd'hui, les réformes consistent à changer des gens. Vous étiez là, on vous change, on met quelqu'un d'autre, on appelle ça réforme. Attends, je vais dire quelque chose de très important. Pour qu'un pays soit détruit, les gens croient que les Mororo viendront détruire et les Rwandais sont en train de... Non. Pour détruire votre pays, on détruit deux services seulement. Deux. Pas trois, pas quatre, pas cinq. Deux.
Lesquels?
On détruit l'enseignement et on détruit la justice. Le tour est joué.
Portrait.
Chers auditeurs, le moment de parler brièvement de notre invité est arrivé. Qui est le professeur Boniface Kabisa? Réponse avec vous, Michel Kifindangoy.
Professeur Boniface Kabisa est actuellement conseiller à la présidence de la République dans le cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Inspecteur général adjoint de la police judiciaire du parquet depuis 2012, le professeur Boniface Kabisa a été conseiller chargé de mission du premier ministre Antoine Gizenga en 2007. Ce, après avoir occupé la fonction du conseiller principal au cabinet du vice-président de la République à charge de reconstruction entre 2003 et 2004. Peu avant, en 1998, il a assumé la fonction de conseiller chargé de l'ordre public au ministère de l'Intérieur. Professeur aux académies de police belges des Jurbise, Boniface Kabisa est aussi directeur de l'école de formation du personnel judiciaire à Kinshasa. Docteur et chercheur libre en criminologie de l'Université catholique flamande de Louvain en 2002, Boniface Kabisa est agrégé de l'enseignement supérieur en criminologie à l'ULB en 2005. Licencié en criminologie en 1995 à l'Université libre de Bruxelles, orientation crime international et crime organisé, Boniface Kabisa a obtenu son bachelier spécial en criminologie dans la même université. Entre 1994 et 2005, Boniface Kabisa a animé plusieurs conférences en criminologie criminalistique et droit pénal international, notamment en Belgique, à Vienne, à Washington, ainsi qu'à New Delhi. Originaire de la province de Kwilu, Boniface Kabisa est âgé de 63 ans et a fait ses études primaires et secondaires à Kikwit.
Radio Okapi. Grande interview.
Professeur Boniface Kabisa, vous avez une grande expérience au sein de l'inspection judiciaire des parquets. Professeur, cette justice est par terre, vous l'avez dit en début d'émission. Et aujourd'hui, la RDC est dans un contexte assez particulier. C'est par là que nous allons devoir chuter, professeur. Quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait pour sortir de cette impasse?
Mettons le pouvoir. Cherchons à avoir le pouvoir que nous n'avons pas.
Comment?
Eh bien, en mettant en place les principes qui régissent un État, le vrai, l'anonymat de la loi, l'anonymat de la peine, l'anonymat de l'application de la loi. Anonymat, je dis. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Alain, manger, c'est mauvais, on ne peut pas dire Kabissa, toi, tu peux manger. Il faut que nous tous, nous soyons comme ça. Nous sommes le seul pays où il n'y a ni une personne qui a détourné les deniers publics, ni une personne qui a été corrompue ou qui a voulu corrompre, ni une personne poursuivie de blanchiment des capitaux. Nous sommes au ciel. Il y a un garçon qui m'a dit ça à Washington, il m'a posé la question, il m'a dit, de deux choses l'une, ou vous habitez la même planète que nous, ou alors vous avez fait de ces infractions-là le mode de gouvernance. Alors, moi, je dis des choses avec leurs mots.
Et donc, l'impunité, il faut la bannir.
Le moment où nous aurons arrêté les gens et qui seront condamnés, pas seulement les arrêter, parce qu'il ne faut pas arrêter arbitrairement, mais condamnés, eh bien, à ce moment-là, les autres vont commencer à croire en nous.
Merci, professeur Boniface Kabissa.
C'est moi.
Grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Je recevais professeur Boniface Kabissa Moussambi, il est criminologue. Michel Kifindangoy a coordonné cette émission réalisée par Donna Madimba et supervisée par Jean-Marc Matouaki. Mise en onde Willem Nungamba, présentation Alain Rung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.